Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon et Maïver Gérard, mais aussi Marguerite Caton et Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Emmanuel Morse-Duncan. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc.
Bonjour.
Marc Semo, bien sûr. À deux jours des élections européennes, nous allons nous intéresser aux forces nationalistes du continent. La semaine dernière, Marine Le Pen a achevé sa tournée en Italie chez Matteo Salvini, le nouvel homme fort de l'Union européenne. Milan devait être la scène sur laquelle les partis nationalistes affirmaient leur nouvelle puissance et leur ambition de former un super groupe au Parlement de Strasbourg. Et en effet, les sondages leur sont plutôt favorables, aussi bien en Italie qu'en France. Et pourtant, des failles apparaissent déjà dans le dispositif nationaliste. Et elles se sont illustrées notamment quelques heures plus tôt en Autriche, avec ce scandale qui a touché le vice-chancelier autrichien Hans-Christian Strache, poussé à la démission après une vidéo compromettante. L'affaire a provoqué la chute de la coalition au pouvoir et le FPÖ, allié historique du Rassemblement national, se retrouve fragilisé sur la scène nationale, mais fragilise aussi la belle entente, la belle communion des partis nationalistes européens. Alors, les extrêmes droites européennes pourront-elles s'en relever? Quel sera leur poids dans le futur Parlement? Et d'ailleurs, peuvent-ils seulement s'entendre? Seront-elles capables de dépasser leurs propres divisions? Matteo Salvini réussira-t-il le tour de force consistant à unir les souverainistes d'Europe? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité Marc Lazare. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire et de sociologie politique, directeur du Centre d'histoire de Sciences Po à Paris, et puis auteur d'un nouvel ouvrage qui vient de paraître, Peuplecratie, chez Gallimard, que vous avez écrit avec Ilvo Diamanti. Dany Leder, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes journaliste autrichien. On va parler de l'Autriche, évidemment, ce matin, correspondant à Paris du quotidien Courir. Avant d'évoquer toutes ces questions ensemble, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Grèce, et Amélie Poinceau. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Mediapart, ancienne correspondante à Athènes de 2010 à 2014. Alors je vais faire quelques rappels. Janvier 2015, en plein marasme économique, Alexis Tsipras accède au poste de Premier ministre grâce au vote d'une majorité des Grecs déterminés à en finir avec les coupes budgétaires. Il organise alors un référendum sur la dette publique et puis il se retrouve contraint de signer un accord avec les créanciers et finalement opte pour une politique d'austérité, ce qui va provoquer des critiques de la part d'une partie de son camp, le forçant à démissionner. Mais son retour va être assez rapide puisque quelques mois après de nouvelles élections législatives, il revient. Il revient en septembre 2015 et on est donc 4 ans après maintenant. Ce leader de Syriza œuvre pour remettre l'économie grecque sur de bons rails, avec notamment le concours du ministre de l'économie, Yanis Dragasakis, que vous avez eu l'occasion de rencontrer, on en parlera. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Grèce, à deux jours des élections européennes? C'est intéressant de regarder ça aussi. Votre reportage, Amélie Poinceau, s'ouvre sur une figure particulièrement symptomatique de l'évolution de Syriza, passé de la gauche radicale à la gauche de compromis, dites-vous, c'est Angeliki Christoforatou. Alors à l'été 2015, elle a un atelier de couture, cette femme, elle croule sous les dettes, comme son pays, elle fait faillite, et quand elle voit Tsipras céder devant la Troïka et la victoire écrasante du non au référendum, c'était 62%, elle est totalement dépitée. Je ne pouvais pas croire qu'il allait appliquer l'austérité contre laquelle il s'était opposé depuis le début de la crise. Sauf qu'aujourd'hui, Angeliki, elle est candidate pour les municipales à Athènes sur la liste de Syriza. Comment elle a pu opérer ce glissement et qu'est-ce que ça vous semble révéler précisément du glissement de Syriza lui-même?
Angeliki, effectivement, illustre un petit peu un certain nombre de Grecs qui ont été frappés de plein fouet par la crise économique qui, je le rappelle, a démarré en fait en 2010. Angeliki s'est retrouvée surendettée. Elle avait, lorsque je l'avais rencontrée une première fois, elle avait une ardoise de 17 000 euros auprès des caisses de sécurité sociale puisqu'elle était en fait travailleuse indépendante, hein, donc elle payait elle-même ses charges sociales. Et c'était le cas de très nombreux Grecs qui, au bout d'un moment, ont arrêté de cotiser parce qu'en fait, ils n'en avaient plus les moyens. Et donc, ces gens sont complètement sortis des droits à la sécurité sociale. Ils n'avaient plus accès à l'hôpital public. Et ce qu'a mis en place le gouvernement de Tsipras à partir de 2015 et après ce mémorandum d'austérité signé donc en août 2015, c'est il s'était forcé en fait de faire revenir ces gens vers leurs droits sociaux. Et alors, ça a pris du temps. Donc, effectivement, dans un premier temps, c'est l'austérité qui a continué de s'imposer. Et petit à petit, au cours de ces 4 dernières années, le gouvernement de Tsipras a mis en place des mesures et notamment, il est revenu à l'accès à l'hôpital public pour tous, sans ticket modérateur, puisque pendant les premières années de la crise, les gouvernements précédents avaient justement mis en place un ticket modérateur pour accéder aux soins.
Et finalement, cette politique sociale de Tsipras, elle a permis de se rallier, y compris le camp de la gauche radicale. Vous dites aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qu'on identifie comme étant de la gauche radicale qui en réalité soutiennent Tsipras.
Oui, oui. Alors une partie d'entre eux, et c'est effectivement les gens qui ont été les plus victimes, les plus touchés par les toutes premières mesures d'austérité et la crise économique à partir de 2010. Il y en a toutefois qui restent anti-Tsipras, qui restent sur leur déception de l'été 2015. Une partie de cette gauche radicale ne va certainement pas voter, mais une grande partie effectivement est en train de revenir vers Tsipras, se disant que finalement c'est le moins pire, enfin le dirigeant le moins pire qu'on pouvait avoir en l'état des lieux. Et puis Tsipras a aussi gagné beaucoup de crédit sur la scène internationale. On va peut-être y revenir, mais...
Et alors, vous disiez donc, si une partie de la gauche radicale soutient Tsipras aujourd'hui, c'est parce qu'il a conduit cette politique sociale. Mais évidemment, cette politique sociale, elle a aussi un coût. Elle n'a pas trop déstabilisé les finances du pays ? Où est-ce qu'on
en est aujourd'hui ? Non, pas du tout. En fait, c'est une politique sociale qui s'adresse vraiment aux plus démunis. Et là, la critique qu'on peut faire à cette politique, c'est qu'elle n'a pas encore pris en compte le gros des classes moyennes. Donc, les gens qui étaient vraiment complètement exclus du système sont revenus dans le système. Il y a des revenus de solidarité, des allocations, etc., qui ont été mises en place, qui avant n'existaient pas du tout, parce qu'il faut bien savoir qu'en Grèce, il n'y avait pas de réel État-providence comme chez nous.
Mais ce sont les classes moyennes qui ont
payé
cette politique
problème,
sociale.
Voilà, le problème, c'est les classes moyennes salariées qui continuent de payer cette politique sociale et de ne pas en tirer des bénéfices. Les impôts sont... l'impôt sur le revenu est encore très important. En Grèce, le seuil d'imposition, c'est 7000 et quelques euros par an. Donc ça veut dire qu'on paye des impôts à partir de salaires déjà très très bas. L'autre impasse, en fait, l'autre limite de cette politique, c'est que Tsipras n'a pas réussi encore à remettre à reconstruire un système fiscal juste et progressif, et les hauts revenus sont toujours assez largement exemptés, et notamment les armateurs, qui est l'un des problèmes de l'économie grecque, qui sont toujours exemptés d'impôts.
Mais grâce à ces transformations dans la politique fiscale, il a pu faire rentrer davantage d'argent dans les caisses.
Oui, et il y a une meilleure. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a une meilleure lutte contre la fraude fiscale, ce qu'il n'y avait pas du tout auparavant en Grèce. Le système de collecte des impôts s'est quand même nettement amélioré. Et puis, il y a une reprise économique, il faut bien le dire. Même si on arrive quand même après une chute de 25% du PIB en 6 ans. Aujourd'hui, l'économie grecque repart depuis un an et demi. On est sur une croissance positive, autour de 2%. Le chômage a diminué. Alors certes, c'est pour laisser place à parfois des emplois précaires ou de courte durée, intérimaires, etc. Mais de fait, le taux de chômage est quand même passé sous Tsipras de 27 à 18%. Donc il y a une reprise économique qui est en grande partie dopée par le tourisme. Donc c'est un modèle économique qui reste quand même précaire, qui n'est pas forcément durable, puisque c'est surtout basé sur du travail saisonnier. Mais de fait, l'économie reprend, et ça aussi, ça fait évidemment rentrer de l'argent dans les caisses.
Donc ça veut dire que ça va mieux, mais qu'au fond, Alexis Tsipras n'a pas bouleversé en profondeur la nature même de l'économie grecque. Et c'est d'ailleurs l'une des critiques qu'on formule à son égard.
Non, il a effectivement pas, il n'a pas revu en profondeur le modèle économique grec. Il a continué à ouvrir l'économie sur les investissements extérieurs, les investissements étrangers. Les privatisations qui avaient été engagées sous les gouvernements précédents en réponse déjà à la crise et pour se conformer aussi au programme d'austérité exigé par les créditeurs du pays, il a continué ce programme. Des privatisations ont continué, notamment les aéroports du pays, qui ont été en grande partie vendus à des entreprises allemandes.
Et puis on pense aussi au port du Pirée. Les Chinois sont arrivés en force dans ce port.
Oui, ils y étaient déjà en partie depuis longtemps et effectivement, ils ont continué de racheter ce port. Donc effectivement, c'est pas un modèle disons tourné vers la production intérieure. C'est plutôt un modèle qui s'ouvre aux investissements étrangers.
Compte tenu de cette amélioration de l'économie, Amélie Poinceau, est-ce que aujourd'hui la dette grecque est soutenable? Où est-ce qu'on en est là aussi?
À mon sens, elle n'est toujours pas soutenable. En revanche, ce que le gouvernement a réussi à faire, et c'est notamment ce que m'a expliqué dans cet entretien le ministre de l'économie, Yanis Dragasakis, c'est qu'ils ont réussi en fait à faire diminuer très largement les taux d'intérêt, les taux qui accompagnent les prêts que le gouvernement doit rembourser, et ils ont réussi à repousser quelques échéances. Donc aujourd'hui, selon le gouvernement, cette dette est viable. Ils arrivent à l'absorber, mais elle continue d'être remboursable sur un très très long terme. Donc à mon sens, elle continue de plomber, elle est de l'ordre de 170% du PIB. Elle continue quand même de peser largement sur l'économie nationale.
Surtout qu'ils n'ont pas réussi, à obtenir un ajustement de ce remboursement. Ce qu'ils voulaient, eux, c'était l'ajuster en fonction de la croissance économique du pays, et ça, ils ne l'ont pas obtenu. Donc là, tout va bien, la croissance est de retour, donc ça va, mais dès qu'elle est en recul, ça peut poser problème. Mais pour autant, la question de l'austérité, Amélie Poinceau, vous avez donc interrogé le ministre de l'économie grecque. Vous lui demandez si ils vont poursuivre les mesures d'austérité. Et il vous répond un non absolument clair. Il vous dit non, on a fini avec l'austérité. Maintenant, on relance, on fait des investissements.
Oui, alors là, il y a des lectures différentes. Hein. Les gens critiques de Tsipras me disent que non, l'austérité continue, etc. En réalité, ils ont essayé d'insuffler, comme je l'ai dit, un certain nombre de mesures sociales pour les plus démunis. Ils ont aussi rehaussé le salaire minimum qui avait été très largement diminué pendant les premières années de la crise. Alors, on reste à un niveau qui est relativement bas, autour de 700 euros bruts par mois, mais ils vont continuer de l'augmenter. En fait, ils sont sur le même modèle que le Portugal, qui essaye d'un côté d'appliquer les mesures et de pas dépasser effectivement les clous budgétaires imposés par Bruxelles. Ça, c'est clair. Le gouvernement de Tsipras a bien respecté les règles à ce niveau-là. Et d'un autre côté, tout l'excédent budgétaire qu'ils arrivent à dégager, ils le consacrent à des mesures sociales et à essayer de rétablir le niveau d'avant la crise, en particulier pour le salaire minimum. Et c'est exactement ce qu'a fait le gouvernement portugais, qui est aussi une alliance en fait entre des socialistes et une gauche plus radicale. Et donc c'est ce qu'ils appellent en tout cas, du côté de Syriza, le programme parallèle. C'est-à-dire on respecte les consignes de Bruxelles et en même temps on essaye d'appliquer au minimum des aspects sociaux de notre programme.
Alors Amélie Poinceau, regardons ce qui se passe du côté de l'opposition. Le principal parti d'opposition, c'est Nouvelle Démocratie, parti conservateur, qui est arrivé deuxième lors de l'élection de septembre 2015. Il est dirigé par un homme qui s'appelle Kyriakos Mitsotakis, fils d'un ancien Premier ministre et ex-président de la Nouvelle Démocratie, justement. L'état de forme, ou de méforme peut-être, de cette Nouvelle Démocratie, est-ce qu'il est en position d'inquiéter cette gauche de compromis de Tsipras?
Oui, en tout cas pour les Européennes, qui se jouent dimanche, cette droite est en position d'arriver en première place. Je pense que c'est l'effet aussi d'une forme de lassitude, comme toujours, hein, par rapport à un gouvernement qui a essayé mais qui n'a quand même pas satisfait tout le monde. Et comme on l'a vu, on peut lui apporter un certain nombre de critiques. Mais il n'est pas certain que Mitsotakis parvienne à s'imposer ensuite dans les élections législatives qui se jouent à l'automne prochain, puisqu'il faut bien avoir en tête qu'en Grèce, l'élection principale, en tout cas celle que Alexis Tsipras a en tête, ce sont les législatives de l'automne prochain.
Gagner la Nouvelle Démocratie la suivante,
C'est un petit peu ça le calcul, c'est en tout cas ce que j'interprète, même si Alexis Tsipras a quand même pris à cœur cette campagne électorale et a fait le tour des grandes villes du pays, a vraiment mené des meetings très importants. À la différence de la France, la campagne des Européennes en Grèce a démarré très tôt et elle était très active. Après, Kyriakos Mitsotakis, le handicap qu'il a de son côté, c'est qu'il est issu donc d'une des principales grandes familles politiques grecques. Donc ça aussi, ça fatigue les gens. C'est une tête déjà archi connue et donc ça ne va pas jouer en sa faveur. Et c'est quelqu'un aussi qui aujourd'hui est dans une trajectoire assez droitière, et cette droite qui était plutôt centriste à l'origine, traditionnellement en Grèce, était plutôt une droite assez centriste. Depuis 2015, elle s'est quand même franchement droitisée, notamment sur la question migratoire, où la Grèce a été en première ligne.
Probablement parce qu'elle va aussi draguer du côté de l'extrême droite. Alors justement, on peut s'interroger aussi, savoir quel est l'état de forme ou de méforme là aussi de l'extrême droite. Il y a évidemment ce parti Lobe Doré, on s'en souvient, en 2012, qui avait fait une percée assez inédite. Hein. C'était, je crois, 7% des voix, en voyant une vingtaine, un peu plus de députés. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle pèse?
Elle est à peu près au même niveau. La Grèce est effectivement l'un des rares pays européens où l'extrême droite est très contenue et où la crise économique n'a pas provoqué de poussée spectaculaire, à part effectivement la première entrée au Parlement que vous avez soulignée en 2012. Depuis, Obdoré est en réalité resté à peu près au même niveau. Il faut dire aussi que beaucoup de ses membres sont actuellement en procès, puisque c'est une organisation a priori criminelle, hein, puisque elle a été soupçonnée d'être liée au meurtre d'un chanteur antifasciste il y a quelques années. Et depuis, le dirigeant d'Obdoré et un certain nombre de ses cadres sont en procès. Alors c'est un procès très très long qui n'a pas encore donné ses conclusions, mais ça, concrètement, ça a complètement bloqué Obdoré dans son élan.
Alors il y a les affaires, mais est-ce qu'on peut aussi postuler l'idée que si cette extrême droite est contenue, c'est aussi parce que Tsipras a bien géré la question migratoire ?
On peut l'interpréter ainsi. Ouais. En effet, il faut dire aussi que la société grecque était très solidaire. Hein, lorsque les exilés des guerres en Irak et en Syrie sont arrivés massivement en Grèce en 2015, la société grecque les a accueillis. Il n'a pas eu ou très peu de violence de la part des Grecs à l'égard de ces réfugiés.
Même si on est loin de l'intégration, c'est ce que vous dites, si vous avez consacré un papier entier justement à cette question de la migration et de la gestion des migrants, vous dites, pour l'instant, on les gère, on les accueille, mais on les intègre pas.
En effet, là, c'est aussi une question de moyens. Et là, pour le coup, le gouvernement manque certainement de moyens. Il a d'ailleurs alerté un certain nombre de fois déjà les autorités européennes pour demander plus de moyens. Alors, il y a des programmes. Il y a notamment le HCR qui est assez actif en Grèce. Mais aujourd'hui, la question se pose du logement, qui est l'étape première, hein, pour un réfugié pour s'intégrer. Beaucoup de réfugiés qui ont bénéficié justement de programmes de logement, d'hébergement depuis 3 ans vont désormais en être exclus, parce que à partir du moment où ils ont le statut officiel de réfugié, auparavant ils étaient demandeurs d'asile, lorsqu'ils obtiennent le statut, ben du coup ils doivent voler de leurs propres ailes. Et là se pose la question de leur hébergement, et la question aussi de l'apprentissage de la langue, de l'accès au marché du travail. C'est vraiment des obstacles encore à une intégration. Là où ça fonctionne, c'est dans les écoles, avec les enfants. Là, il y a vraiment une intégration en marche. Mais pour l'accès au marché du travail, c'est déjà quand même encore difficile pour les Grecs. Donc, ça allait a fortiori encore plus pour des étrangers.
Amélie Poinceau, encore une toute dernière question. Revenons sur les Européennes et sur Syriza. Est-ce que Syriza va rester membre de la gauche unitaire européenne, ou est-ce qu'il pourrait y avoir le désir de changer de groupe au Parlement et de se rallier, pourquoi pas, à l'Alliance progressiste des socialistes et des démocrates? C'est une question que vous avez posée justement au ministre de l'économie grecque.
Oui, c'est une question qui nous intéresse beaucoup aussi à Mediapart, puisqu'on couvre aussi beaucoup ces stratégies d'alliance et ces équilibres politiques au Parlement européen. Et c'est vrai que le fait que Syriza soit devenue une gauche davantage de compromis nous incitait à penser qu'ils allaient rejoindre le groupe des sociaux-démocrates européens. Et en réalité, c'est pas du tout ce qui se profile. Tous les interlocuteurs que j'ai eus me disent qu'ils veulent rester membres de cette gauche unitaire européenne pour exercer une pression de gauche justement au Parlement européen et continuer à assumer leur ADN de gauche radicale.
Merci beaucoup Amélie Poinceau d'être passée dans nos studios. Je rappelle que vous êtes journaliste à Mediapart. On peut relire tous les papiers dont on a parler ce matin sur le site de Mediapart. Je rappelle que vous êtes l'ancienne correspondante à Athènes de 2010 à 2014. Et puis j'indique aussi pour nos auditeurs que vous intéressez à la Hongrie. Vous avez écrit très récemment Dans la tête de Viktor Orban, qui est paru chez Actes Sud. Merci beaucoup.
Merci. Tumba tumba dole yeni breki no bumba me ta yeki tumbe leki tumbe leki bre bumba skani stole leki.
Allez, on va quitter la Grèce, quoique pas tout à fait. Hein. On va ouvrir sur le champ de l'ensemble de l'Europe européenne 2019 vers une internationale nationaliste. C'est la question qu'on se pose ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
La semaine dernière, les forces d'extrême droite se retrouvaient à Milan pour une grande messe orchestrée par le nouvel homme fort de l'Europe, le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini.
Lasciamo gli altri volentieri.
Nous laissons aux autres les peurs et les fantômes du passé. Nous construisons tous ensemble l'avenir. Ici, il n'y a pas d'extrême droite, mais la politique du bon sens. Les extrémistes sont ceux qui ont gouverné l'Europe pendant 20 ans au nom de la pauvreté et de la précarité.
Voilà, samedi dernier, le vice-président du Conseil et dirigeant de la Lega réunissait une douzaine de partis nationalistes européens. Mais si Marine Le Pen était évidemment présente et que l'ambition affichée reste de devenir la troisième force du Parlement de Strasbourg, une absence a été particulièrement remarquée, celle du FPÖ autrichien, ébranlé par un scandale de corruption venu du vice-chancelier Heinz Christian Strache. On y reviendra. Alors, jusqu'où ce scandale pourrait gâter les espoirs des forces souverainistes de droite? Et d'ailleurs, au-delà de ce scandale, jusqu'où peuvent-elles réellement s'entendre? Est-ce que le leadership de Matteo Salvini suffit à dépasser les divergences? Marc Lazare et Dany Leder sont nos invités. Marc Sémo, on va commencer avec vous comme on le fait chaque vendredi. Quand on regarde, Marc Sémo, les sondages pour l'élection de dimanche, on voit qu'effectivement les forces d'extrême droite ont le vent en poupe. La Ligue est créditée de 26 eurodéputés, c'est-à-dire 20 de plus qu'aujourd'hui. Le Rassemblement National passerait à 20 sièges, donc une poussée de 5 en plus. L'AFD allemand, pareil, on est à 11 sièges, c'est-à-dire 10 en plus. Donc il est tout à fait possible qu'elles parviennent à réaliser cette percée historique au Parlement de Strasbourg. Sauf que, évidemment, de fortes interrogations demeurent, Marc, sur leur capacité à s'entendre et à s'unir pour enclencher un processus transformatif au sein de l'Union européenne.
Absolument. Alors, les divergences sont profondes entre elles, et notamment par rapport à la Russie. Mais au-delà de ça, je me demande si finalement Matteo Salvini n'est pas surtout un épouvantail. Le pouvoir, il le partage avec les 5 étoiles. Jusqu'ici, il n'a pas réussi à faire grand-chose et il peine même à faire passer son décret sécuritaire anti-migrants. Le quotidien La République a calculé que pendant les 4 premiers mois de 2019, il a à peine consacré 22 jours à ses activités de ministre de l'Intérieur, à temps plein, et que le reste du temps, il est en campagne électorale, fait des tweets, des meetings, etc. Alors, il est entré en politique à l'âge de 15 ans, il est passé à peu près par toutes les idéologies. Alors maintenant, il a transformé la Ligue de parti régionaliste en allié transalpin du Front National, enfin du Rassemblement National, mais il peut très bien, après, revenir vers une droite dure. La force des populistes en Europe, c'est de faire passer leurs idées dans le débat public comme étant celles du vrai peuple. Mais le vrai danger, c'est surtout de les voir reprises par la droite dite présentable. Et est-ce que le vrai homme fort de la droite en Europe, ce n'est pas finalement Sébastien Kurz, le jeune Premier ministre conservateur autrichien, bien qu'affaibli par sa crise avec ses alliés de l'extrême droite, mais finalement, il risque de récupérer électoralement. Et le programme dont rêvait Matteo Salvini, dont rêve toujours Matteo Salvini, c'est finalement, discrètement, depuis 17 mois, Sébastien Kurz, avec ses alliés du FPÖ, qui l'a mis en œuvre sur beaucoup de choses.
Ben voilà, le décor est parfaitement planté. On voit bien, là, on va naviguer entre l'Italie de Matteo Salvini et l'Autriche de ce chancelier Sébastien Kurz du Parti conservateur qu'on ne connaît pas si bien que ça. Donc il va falloir peut-être débroussailler un petit peu les choses et comprendre justement ce qu'il y a derrière. Marc Lazare, d'abord, une première impression sur ce que nous dit Marc. C'est vrai que quand on s'intéresse aux droites nationalistes en Europe, on a un peu tendance à penser qu'aujourd'hui, celui qui l'incarne, celui qui la structure d'une certaine manière, c'est Salvini. Peut-être pas tant que cela, vous êtes d'accord avec cette idée?
Non, je crois qu'il est passé par plusieurs étapes, comme l'a rappelé Marc Sémo. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un militant de la Ligue régionaliste du Nord. La deuxième étape, justement, ça a été de se transformer en leader national. C'est très important en Italie, ça. Hein, c'est-à-dire pas simplement être attaché à ce que la Ligue du Nord appelait à l'époque la Padanie, cette région du Nord imaginaire dont on ne sait jamais très bien où elle se termine, mais d'essayer de pénétrer dans l'ensemble de l'Italie, de se présenter comme le leader national. Et effectivement, il est en campagne permanente et il passe très peu de temps à son ministère parce que c'est sa préoccupation principale de se construire comme une force nationale avec des vrais résultats. Hein. Et d'ailleurs, dimanche en Italie, on ne va pas voter simplement pour les élections européennes, on va voter, ça va être très important à suivre, pour une élection régionale capitale dans le Piémont et une multitude d'élections municipales. Et donc là, on va voir quel est l'impact de la Ligue. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape qu'il a énoncée très clairement à partir de juillet de l'année dernière, c'est-à-dire, je vous rappelle que le gouvernement est constitué le 1er juin, donc il est vice-président du Conseil et ministre de l'Intérieur depuis le 1er juin, et il fait un grand discours à Pontida, qui est le lieu classique dans le nord de l'Italie, en Lombardie, où les militants de la Ligue se réunissent, et il dit, il faut créer la Ligue des Ligues au niveau européen, c'est-à-dire qu'il a ce projet. Alors, effectivement, du coup, il est assez proche de Marine Le Pen. Il y a quand même des petits points de friction sur lesquels on reviendra peut-être. Il y a le fait que dorénavant le FPÖ n'est plus là. Il y a d'autres petits partis répartis un peu partout, c'est le cas de le dire, dans le reste de l'Europe du Nord. Il y a l'AFD en Allemagne, l'alternative pour l'Allemagne. Ça va être très important de savoir si c'est l'alternative pour l'Allemagne, où vont se situer ces députés-là. On l'a crédité dans les dernières enquêtes d'opinion de 12% des voix, derrière les Verts. Donc ça va être important.
Les Verts sont particulièrement en forme en Allemagne.
En Allemagne et en Autriche, je crois.
Et en Autriche aussi.
En Belgique,
ils se refont une santé en Autriche.
Et juste pour terminer sur ce point-là, en même temps, c'est vrai qu'il y a des divergences très importantes. Il y a des divergences avec l'AFD, et notamment sur les questions économiques, parce que les Allemands ont dit clairement qu'ils ne paieront pas pour les Italiens, notamment le creusement de la dette et du déficit public. Ça, c'est un élément de divergence. Puis il y a évidemment tout ce qui va se passer au Parlement. Qu'est-ce que va faire Orban ? L'autre grand problème, c'est Orban. Donc
on a beaucoup de choses à évoquer.
Démêler cet écheveau, disons.
On a du travail ce matin, mais on va faire petit pas par petit pas. Dany Leder, si on regarde du côté de l'Autriche, je rappelle ce scandale maintenant qu'on appelle l'Ibiza-Gate, qui a provoqué la chute du vice-chancelier autrichien Heinz-Christian Strache, le dirigeant du FPÖ, faisant donc voler en éclats cette coalition entre le parti conservateur EVP du chancelier Sébastien Kurz et donc ce FPÖ, Parti de la Liberté. Il y a cette vidéo qui a été diffusée, le montrant en train de proposer un marché, des marchés publics contre un soutien financier auprès d'une jeune femme qui se présente comme la nièce d'un oligarque russe. Il y a plusieurs questions. D'abord, jusqu'où ce scandale pourrait affaiblir le FPÖ ? Est-ce que ça va pousser les électeurs traditionnels de ce parti à ne pas voter pour sa liste aux élections européennes ? Et puis on reviendra sur la question de Marc, de savoir si au fond ce n'est pas lui, le véritable homme fort qui pourrait structurer les droites nationalistes européennes. Mais d'abord sur ce scandale lui-même.
Oui, alors il y a déjà un point qu'il faut ajouter, parce que bon, quand on fait vite, et c'est normal vu de l'extérieur, on parle de corruption, d'une affaire de corruption avec la Russie, il y a un aspect politique très important qu'il faut ajouter, parce que non seulement le vice-chancelier est leader du parti de la droite radicale autrichien, Strache, que vous avez mentionné et qui a failli, qui a dû démissionner maintenant, était prêt effectivement à vendre une partie du capital public autrichien contre un échange financier de la part d'un fictif oligarque russe. Mais surtout, il a dévoilé son projet d'urbaniser l'espace politique et médiatique autrichien, de prendre le pouvoir. Surtout par rapport à un média extrêmement important en Autriche. Alors ça aussi, il faudrait peut-être le souligner vis-à-vis d'un public peu rompu à la réalité autrichienne. On a en Autriche le quotidien le plus puissant du monde en pourcentage par rapport à la population. C'est un tabloïd qui s'appelle Kronenzeitung et qui est lu par plus de 2 millions de lecteurs sur 8,6 millions d'habitants. C'est inouï, et c'est un journal qui avait déjà une tendance lourde vers le populisme, vers la xénophobie. Mais le fait que Strache, dans cette interview, déclare qu'il veut prendre le pouvoir dans ce journal, virer un certain nombre de journalistes et les remplacer par d'autres, a insulté ce journal qui, pour la première fois, s'est rebiffé. Et a fait l'éloge directement le lendemain d'une manifestation antifasciste du gouvernement, ce qui s'est jamais vu auparavant. Et à travers ce journal, c'est aussi une bonne partie de l'électorat du FPE qui fait partie du lectorat fidèle de ce journal qui s'est senti insulté. Donc, votre question, est-ce que ça affaiblit le parti de la droite radicale autrichien actuellement ? Il n'y a pas photo, ils accusent le coup. En termes de sondage, on le voit déjà. C'est-à-dire qu'ils étaient donnés à 22%, ce qui n'était pas fameux parce que Kurz était jusqu'à présent le grand gagnant de cette coalition. Ils étaient à 22, maintenant ils sont dormés à 18%, si ce n'est plus bas. Et le grand vainqueur, et là j'aimerais contredire la supposition de Marc Sémo, on ne peut pas dire que Kurz est actuellement le grand perdant de cette affaire. Pour l'instant, au contraire, c'est le grand gagnant. D'ailleurs, il a déjà engrangé. Vous avez dit
qu'il était le grand gagnant.
Non, vous aviez dit le grand perdant. Peut-être votre langue a fourché. Pour l'instant.
J'ai compris le grand gagnant,
Mais revenons sur ce point. Est-ce que c'est la deuxième fois que le FPE était au gouvernement ?
La troisième,
il s'est fracassé. Alors, est-ce que justement, le modèle qui aujourd'hui est en train de gagner n'est pas celui de Kurz ? et celui de Orban, qui ont un point commun. C'est-à-dire, oui. Ce ne sont pas des gens de l'extrême droite. Mmh. Ce sont des gens qui ont asséché l'extrême droite en prenant totalement pour le pire leur thématique. Et est-ce que c'est pas ça aujourd'hui le grand danger? Mmh. Mmh. Ce centre de gravité qui serait celui d'une droite qui n'est plus la droite que nous connaissions jusqu'ici, une droite beaucoup plus dure, beaucoup plus populiste, mais en même temps qui n'est pas l'extrême droite et qui serait aujourd'hui, on regarde Laurent Wauquiez, sa campagne électorale, elle est sur ce thème-là.
Honnêtement, je partage pas cette... disons que moi, personnellement, je préfère vivre sous un gouvernement dirigé par Kurz ou à la limite par Wauquiez que... par un gouvernement de Marine Le Pen. Et donc, c'est quand même la question essentielle. Il faut bien voir que le FPE, et d'ailleurs aussi le Front National rebaptisé, était quand même sur le point d'arracher la mise. Hein. Et là, on a eu la divine surprise, si j'ose dire, de Kurz. Et assimiler tout simplement Kurz à Orban est, à mon avis, une vision erronée des choses.
Pourquoi?
Parce que Kurz est quelqu'un qui respecte l'état de droit, qui n'a pas un projet qui dépasse la tradition de la démocratie libérale telle qu'on la connaît en Europe occidentale. Et d'ailleurs, Orban et Kurz sont à couteau tiré. Et Kurz a co-décidé à l'intérieur du Parti conservateur européen de le sanctionner. De sanctionner Orban. Mmh. Sur quoi Orban a déclenché une campagne hystérique contre Kurz. Et toute l'extrême droite a suivi. Et aujourd'hui, Kurz est diabolisé et perçu comme l'ennemi principal par les courants national populistes, comme un traître, comme quelqu'un de vendu à Soros.
Marc Lazare.
Non, c'est intéressant cette discussion et cet échange parce qu'on voit bien effectivement que, un, il ne faut pas faire de réductionnisme, il ne faut pas, deux, surestimer ou sous-estimer ces formations populistes et voir la configuration globale à laquelle on a affaire. Moi, je crois qu'effectivement, il y a des différences entre Orban et Kurz. Une des différences, c'est que Orban a je crois que c'est celui qui a le plus clair projet idéologique aujourd'hui, beaucoup plus que Salvini, comme Marc Semo le rappelait, qui est assez pragmatique, qui n'est pas, entre guillemets, un théoricien. Orban a un projet très clair, qu'il a énoncé à plusieurs reprises, théorisé devant ses militants. Il y a plusieurs discours très importants, d'ailleurs je pense qu'il faudrait vraiment que les Français, en tout cas ceux qui s'intéressent à ça, les lisent, dans lequel il dit quel est le problème aujourd'hui de l'Europe, c'est de refonder l'Europe sur les valeurs chrétiennes, sur la famille traditionnelle, parce que l'objectif numéro un, c'est d'empêcher l'islamisation de l'Europe.
Et, c'est des choses qu'on retrouve chez Sébastien Kurz.
Alors ça, je laisserai
pas sous cette forme. À mon avis, non. Bon, je veux dire, là, les opinions divergent, mais je pense pas que Kurz et le courant des conservateurs, y compris durs, soient assimilables à ce qu'on peut appeler le courant national-populiste. Mais je reviendrai là-dessus.
Je laisse poursuivre Marc Lazare.
Donc c'est l'élément d'Orban et ce qui fait que cette théorisation justement est très importante et qui renvoie aussi à un autre élément qui est l'opposition entre une partie. Alors je suis très prudent dans les expressions que je vais employer. Une partie des pays de l'Europe, alors médiane, centrale. Vous savez que c'est toujours très difficile de trouver la définition telle qu'on peut la donner de cet ensemble, mais aussi donc de cette opposition, notamment entre d'un côté hongrois et polonais et le reste de l'Europe occidentale sur des questions par exemple de société et de mœurs. Le fait que pour Orban c'est impensable qu'il y ait des reconnaissances de couples de juridiques des couples du même sexe, ça c'est absolument impossible. Alors qu'un certain nombre de formations populistes de l'Ouest, notamment aux Pays-Bas, mais aussi en France où Alors Marine Le Pen est très prudente là-dessus. Attention, parce qu'après, Marine Le Pen, à la différence de son père, sur ces questions-là, sans se prononcer ouvertement, mais je vous rappelle qu'elle n'est jamais allée manifester contre la loi, loi du mariage pour tous, on est d'accord là-dessus. Mais en revanche, à l'intérieur du Front National, sa nièce est sur des positions très traditionnelles. Oui. Tout ça fait que il y a une complexité dans l'analyse. Et pour revenir juste un moment sur Salvini, puisque vous disiez, est-ce que c'est pas l'homme fort, on voit très bien, me semble-t-il, comment Salvini, fait de la navigation à vue. De temps en temps, il se rapproche plutôt d'Orban, de temps en temps, il se rapproche plutôt de Marine Le Pen. C'est pas tout à fait cohérent. Je vous donne juste un exemple, un seul. Il y a eu un grand congrès à Vérone des traditionalistes pour la défense de la famille et pour la critique du féminisme, de l'homosexualité, etc. Et Salvini y est allé, mais a refusé clairement de dire que, au cas où il serait un jour président du Conseil, ce qui est quand même son grand projet, il reviendrait pas sur la loi sur le divorce, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse et sur la loi qu'a fait passer Matteo Renzi sur la reconnaissance juridique des couples du même sexe. Donc voilà, il oscille en permanence.
C'est pas du tout que je veux vous censurer, mais c'est parce qu'on va reparler de Matteo Salvini. D'accord. C'est pour ça. C'est juste pour ça. Marc Sémo.
Alors, justement sur ce point des extrêmes droites, leur stratégie dans les gouvernements dans lesquels ils participent, et on l'a vu en Autriche, c'est quand même d'exiger les ministères régaliens. Et ce qui laisse extrêmement, ce qui est extrêmement préoccupant par rapport à Kurz, alors maintenant la question est résolue puisqu'ils ont quitté la coalition, mais ils avaient quand même obtenu l'intérieur, la défense et les affaires étrangères. Ce qui est quand même stupéfiant qu'on donne à un parti qui a quand même le casier judiciaire, pour parler crûment, du FPE, des ministères régaliens comme ça. Et on voit, par exemple, en Italie, avec Salvini, première chose qu'a exigé la Ligue, ça a été le ministère de l'Intérieur. Donc il y a une stratégie des extrêmes droites de prendre ces ministères de force.
Dany Leder.
Justement, c'est très intéressant et important ce que vient de dire Marc Sémo, parce que ça souligne d'une certaine manière, je dirais pas l'incompréhension, mais une vision éloignée du processus en cours, par exemple en Autriche. Vous avez tout à fait raison. Vu de l'extérieur, le FPE est un parti d'extrême droite, il n'y a pas photo, et on s'étonne qu'il puisse accéder au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, et d'ailleurs pour le ministère de l'Intérieur, c'était d'ailleurs une vraie catastrophe qui émerge.
Il est très contesté, Kikel.
Alors, non seulement ce ministre de l'Intérieur du FPE est très contesté, mais surtout, il a organisé une porosité totale des services de sécurité autrichiens vis-à-vis de l'ultra-droite, et vis-à-vis du régime russe de Poutine. Ce qui a fait que les partenaires occidentaux des services de renseignement autrichiens ont gelé leur contact avec l'Autriche. Mais je reviens au point essentiel, c'est-à-dire que, bon, vu de l'extérieur, c'est l'extrême droite. Mais, en fait, et ça c'est vrai par exemple en France aussi et dans d'autres pays, j'aimerais revenir à quelque chose de fondamental pour orienter, disons, nos auditeurs, pour revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, de quoi on parle? On a vu depuis une trentaine d'années émerger, en Europe occidentale, je souligne cela, quelque chose, un mouvement, un espace politique, une offre politique qui se situait entre la droite conservatrice, y compris dure, et l'extrême droite fasciste néo-nazie. J'appelle cela le courant national-populiste. On peut dire que ça a émergé en Autriche d'abord avec l'ancien leader Jörg Haider, et Strache était dans cette prolongation, et Marine Le Pen a embrayé là-dessus, et donc c'est pour ça que ces deux partis, le Front National et le FPE, étaient les principaux alliés en Europe. Donc ils se sont construits dans quelque chose qui pouvait passer pour une droite encore plus dure, mais pas une droite extraparlementaire. C'est important parce que le FPE, pour un tas de raisons, y compris le fait qu'ils avaient été déjà au pouvoir dans une alliance avec les sociodémocrates, je le souligne, passait pas en Autriche pour un parti d'extrême droite. Et ça nous mène maintenant au point suivant. Sur la question très importante que vous avez soulevée, la compatibilité, la soi-disant internationale européenne à partir de ces mouvements. Je dis que le fait que ce national-populisme qui s'est créé en Europe occidentale, sous les conditions particulières d'état de droit très stable, bâti sur une identité du plus jamais ça par rapport au passé nazi, ils ont un grand problème vis-à-vis de leurs soi-disant partenaires à l'Est. Soit parce que ces partis-là sont beaucoup plus extrémistes, d'une part, et d'autre part, évidemment, parce qu'il y a des conflits d'intérêts très très puissants, puisque l'extrême droite ou la droite nationale populiste en Occident va se lancer dans un protectionnisme tout azimut, va empêcher la mobilité des travailleurs de l'Est, va vouloir saquer les fonds structurels en faveur de pays de l'Est, et il est évident que des nationalistes à l'Est ne peuvent pas les suivre sur ce chemin.
On va y revenir dans un très court instant. Marc Lazare, je vous promets, je vous redonne la parole, mais on va faire un tout petit pas de côté. On va en venir à notre partenariat, comme chaque semaine, avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs, de caricaturistes du monde entier. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux.
Assis.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
Alors le dessin du jour, c'est un portrait, celui de Matteo Salvini, évidemment dans la pure tradition du western spaghetti.
Oui, c'est une image que Sergio Leone n'aurait certainement pas reniée pour l'affiche de l'un de ses films. On y voit un homme seul, adossé contre le pilier d'une baraque en bois dans une petite bourgade du Far West. Matteo Salvini en shérif qui monte la garde. C'est un portrait signé Petar Pismetrovic, un dessinateur autrichien, un confrère d'Annie Leider, qui travaille notamment pour le Kleine Zeitung, mais dont on peut voir aussi le coup de griffe dans le New York Times, le Herald Tribune ou encore Le Monde. Le vice-président du conseil italien y est donc représenté en cow-boy solitaire et ombrageux, cigare au bec et poncho sur les épaules, un chapeau incliné sur le devant qui jette un voile d'ombre sur son visage. Salvini a le regard sombre, il semble perdu dans ses pensées et en même temps sur ses gardes. D'une main, il tient fermement une carabine, de l'autre, à sa ceinture, à laquelle est accroché un colt. S'il ne dit rien, ses armes parlent pour lui, gare à celui qui prétendrait marcher sur ses plates-bandes. Derrière lui, une maison, une bicoque plutôt mal en point, censée représenter l'Europe, sauf que le panneau aux 12 étoiles a été barré d'une grande croix. À la place, une autre pancarte vient d'être clouée, sur laquelle on peut lire « European Alliance of People and Nation » et juste au-dessous, une liste « Lega, AFD, FPE, DF, Le Pen ». Voilà, c'est un peu le clan, ceux qui sont admis, semble-t-il, à entrer, à moins qu'il ne s'agisse d'un tableau de chasse. Tous ceux que Salvini aurait convaincus de le suivre dans son projet de rassemblement. Car voilà quelque temps que le président de la Ligue affiche son ambition, s'imposer comme le chef de file des partis nationaux populistes du continent. Il n'y a pas si longtemps, pourtant, vous le rappeliez, Marc Lazare, la Lega n'était qu'un petit parti régionaliste dont le discours consistait essentiellement à vilipender les régions du Sud pour leur chômage et leur manque de dynamisme. Le voilà désormais qui dirige l'Italie aux côtés du mouvement populiste de gauche, 5 étoiles. Un parcours et une coalition d'un genre unique qui le rend parfois un peu difficile à classer. Cela en fait-il pour autant un modèle pour les autres, voire un leader? Rien n'est moins sûr. En attendant, dans la réalité, comme dans ce dessin, Salvini nous fait croire qu'il n'a peur de rien ni de personne. Alors va pour le rôle du méchant, de celui qui défend ses terres et ses intérêts sans scrupules. D'ailleurs, c'est un peu le principe du western spaghetti, hein. On ne fait pas dans la dentelle ni dans la subtilité. Il faut croire que le Milanais y trouve son compte. Tiens, on aurait presque oublié le vautour à l'arrière-plan, perché sur un rocher à quelques pas. Lui aussi semble attendre son heure. Tout cela va mal finir, nous semble dire Petar Pismetrovic. La question est de savoir pour qui.
Et on est en plein western spaghetti. Merci beaucoup Mélanie Chalandon. Et j'indique évidemment pour nos auditeurs qu'on va diffuser ce dessin, qui est un dessin de Chapat, sur les réseaux, sur le Twitter,
non,
le fil Twitter.
De Petar Pismetrovic.
Pardon, excusez-moi. Voilà.
Dessinateur autrichien.
Voilà, en tout cas, on le diffuse. Réaction, peut-être Marc Lazare. Alors moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser, parce que quand je vois ce dessin et que je vois la liste des partis qui sont sur le tableau de chasse de Salvini, il y en a un qui est évidemment pas là, c'est celui d'Orban, le Fidesz. Et donc il pose cette question de la compatibilité ou pas entre Salvini et Orban. Mais réaction sur le dessin.
Non, ben d'abord il est extraordinaire. Moi je ne le connaissais pas et bravo. Et en plus vous l'avez décrit avec beaucoup de brio. C'est vraiment un très beau dessin que les auditeurs donc découvriront sur le site. Et c'est très intéressant parce que Matteo Salvini joue effectivement au shérif. Alors attention parce que les western spaghetti c'était une parodie de western. Lui il le prend au pied de la lettre. Et il y a toute une mise en scène de Matteo Salvini depuis qu'il a été nommé ministre de l'Intérieur et donc vice-président du Conseil. Et effectivement, c'est de prendre, par exemple, les blousons des policiers, justement, pour jouer au shérif. Rappelez-vous la façon dont il a accueilli Cesare Battisti sur l'aéroport de Ciampino à Rome. Donc, tout ça fait partie, effectivement, de la construction politique que s'appelle réaliser Matteo Salvini. Et par rapport à ce que disait Marc Semo sur le ministère de l'Intérieur, c'est préoccupant, mais c'est surtout un choix stratégique qu'avait fait Matteo Salvini. Un, parce qu'il savait qu'il pouvait parler d'immigration. Deux, de la sécurité et que c'était des thèmes hyper porteurs. Et trois, qu'il pouvait préparer les élections. Et puis, il n'arrivait pas à se mêler des questions économiques et sociales qu'il laissait à Luigi Di Maio, puisque Luigi Di Maio est en charge de cela. Et effectivement, il avait un boulevard devant lui et c'est ce qui fait que sa popularité est montée très haute. On verra si il y a effectivement une percée. Il y aura sans doute une progression importante de la Ligue jusqu'où on verra. Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, d'abord, vous remarquez aussi que dans le dessin, c'est Lega Salvini, c'est plus la Lega Lega Nord, c'est la Lega de Matteo Salvini. Il y a une étude très intéressante qui a été faite par deux collègues italiens qui montre que, par exemple, ce parti qui était assez bien structuré sur le territoire dans le Nord, aujourd'hui, avec des sections, des militants, le choix de Matteo Salvini depuis 2013, c'est de délaisser complètement la forme d'organisation. Et on voit très bien qu'il y a beaucoup moins de sections de ce parti. Pourquoi ? Parce qu'il joue tout sur sa personnalité. Et tout à l'heure, quelqu'un d'entre vous évoquait Twitter. Non, lui, il est sur Facebook. Et sur Facebook, il est alors hyper performant. Il est un des plus, il a le plus grand nombre de followers, plus de 2,5 millions régulièrement. Il se met en scène de manière permanente. Donc ça, c'est un élément fondamental de la stratégie médiatico-politique. Alors, les alliances avec le Rassemblement National et donc Marine Le Pen, beaucoup de points d'accord. Sans doute, peut-être, à un moment donné, c'est d'ailleurs un renversement. Hein. 2013, son modèle à Salvini, c'est le Front National. Aujourd'hui, Marine Le Pen dit, mon modèle, c'est la Ligue et Matteo Salvini. Peut-être qu'il y aura peut-être à un moment donné un affrontement des égaux entre eux. Mais globalement, leur accord est important, sauf sur des questions assez stratégiques. La répartition des migrants. Pour le moment, ils enfouissent ça. Matteo Salvini veut la répartition des migrants. Et je pense que Marine Le Pen, je vais peser mes mots, ne va pas changer la politique française là-dessus. Au contraire, elle peut la durcir. C'est-à-dire que la France a tout fait pour refuser, justement, même si Madame Loiseau s'en défend, mais pour refuser, en tout cas, de pas admettre trop de migrants. Premier point de désaccord. Deuxième point de désaccord sur les questions économiques. Si Matteo Salvini, un jour, arrive à la présidence du Conseil et qu'il est débarrassé du mouvement 5 étoiles, il fera encore quelques mesures sociales, mais son électorat du Nord est un électorat qui demande plus de libéralisme, entre guillemets, économique, et surtout moins d'État, alors que la politique de Marine Le Pen, c'est une politique plus protectionniste et étatique, réservée aux Français. Et troisième point, c'est encore une fois sur les questions de mœurs et de société. Matteo Salvini, maintenant, et là, il est dans quelque chose qui est assez proche d'Orban, sans doute pas de ce que vous nous disiez sur l'Autriche, mais qui consiste à dire qu'il faut revenir aux valeurs traditionnelles, mais pas trop, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et par exemple, il brandit maintenant le rosaire dans toutes ses manifestations. Ce qui, pour lui, sachant que... Bon, disons qu'il n'a pas une vie très catholique à ma connaissance. Je vois ça. Je veux dire, apparemment, je crois qu'il a 2 divorces. Apparemment, c'est un homme qui... a beaucoup de succès auprès des dames et qui s'en affiche. Donc, bon, il n'a pas... Mais ce qui est important, c'est que c'est relayé aussi à tous les courants les plus traditionnalistes au sein de l'Église catholique. Et là, il y a un vrai projet qui est d'attaquer le pape François.
Mais justement, à travers ça, est-ce que d'une certaine manière, il ne s'urbanise pas ?
Oui, justement, il s'urbanise.
Et donc que la compatibilité,
Allegro
finalement,
moderato,
comment
si
ça
voulez,
se construire
Allegro moderato, parce qu'il se rapproche d'Orban, mais pas trop. Mais là, il y a une différence avec Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, maintenant, officiellement, après on peut en discuter beaucoup, s'est convertie à la laïcité républicaine. Je mets 40 000 guillemets dans cette conversion. Hein.
Il en manque peut-être. Dany Leder.
Oui, c'est les tendances lourdes de chaque société qui se manifestent, mais Strach également, qui était après sa jeunesse dans de sortes de mini-milices néo-nazis, était un grand fêtard. Et on l'a vu manifester contre l'édification de mosquées en brandissant une croix. Donc, je veux dire, en Autriche aussi, le parti de la droite radicale a tenté une alliance avec l'Église et ses courants, les plus réacs, les plus conservateurs. Cela dit, j'aimerais souligner, en ce qui concerne l'Église, le catholicisme autrichien, qui est lié plutôt au parti de conservateurs et au parti de Kurz, c'est un élément très fort de résistance. Hein, de résistance, un garde-fou sur la droite, hein, contre des excès sur la droite, contre des excès xénophobes. Et ils se sont notamment opposés sur la question de l'accueil des réfugiés, systématiquement, avec persévérance, à la politique, bien sûr, du FPE, mais aussi à la politique de Kurz lui-même. Et à la longue, ça a contribué aussi, je dirais, à rectifier la politique de Kurz sur cette question. C'est d'ailleurs, il faut le souligner, la société autrichienne n'est pas comparable à la société hongroise. Je sais qu'en France, on baigne dans les clichés, Mittler, l'Europe centrale, Stefan Zweig.
Non, mais pas ça, on essaye d'apporter de la nuance.
À chaque coup, on ressort l'empereur et l'Europe centrale. Non, l'Autriche est un pays très, très intégré historiquement en Europe occidentale, donc avec une société civile très réactive, et dans un premier temps, 2015, quand il y a eu la l'arrivée en masse des réfugiés, l'Autriche en a accueilli un très grand nombre, et il y avait la société civile et hospitalière à l'offensive. Et ce qu'on vit maintenant, c'est d'une certaine manière un contre-coup.
Merci beaucoup pour ce travail de nuance. Marc Semo.
Alors justement, est-ce que l'enjeu, ce n'est pas au Parlement européen pour Matteo Salvini, hein, qui se pose malgré tout, qui voudrait être l'homme fort des droites populistes européennes, de fédérer en un seul groupe ces forces qui sont actuellement en trois groupes? Et est-ce que ça, ce n'est pas totalement impossible, parce qu'au-delà des divergences sur l'économie, sur le rapport à la Russie, la question de la répartition des migrants, fondamentalement, personne parmi ces groupes, à part les plus petits, ne veut être avec le Rassemblement national. Vox en Espagne refuse, Orban reste pour le moment au PPE, même s'il quitte le PPE, il ne va pas aller dans un groupe comme ça. Donc est-ce que ce n'est pas ça déjà à la base, l'impossibilité du projet ?
Marc Lazare.
Je pense que, juste un point sur ce qui a été dit, excusez-moi, sur l'Église catholique, la conférence épiscopale italienne, et notamment un certain nombre d'évêques et de cardinaux, ont dit qu'il fallait voter pour ces élections européennes, pour tous les candidats, sauf Matteo Salvini. Il y a un affrontement très très fort, hein. C'est très important ce que vous avez dit, parce que c'est un affrontement de populisme, mais il y a un affrontement au sein de l'Église catholique. Ouais. La détestation du Père François, du Pape François, pardon, par toute une partie de ce courant-là est très important, et ça renvoie à des clivages très forts et qui cristallisent notamment sur les questions de mœurs, sur les questions des immigrants et des migrants.
Et sur l'épouvantail du Rassemblement National.
Je pense que Marc a raison, ça va être très très difficile. Le rêve de Matteo Salvini, c'était quoi ? Constituer un groupe unique et essayer, avec le soutien d'Orban qui resterait dans le Parti Populaire Européen, de détacher une partie du Parti Populaire Européen pour avoir des majorités au Parlement, entre donc une partie de la droite du PPE qui basculerait du côté, entre guillemets, de ce groupe populiste. Vous avez raison, Marc Semo, je pense que c'est quasiment impossible la formation d'un groupe unifié. Il faut rappeler aux auditeurs qu'il y en a trois dans le Parlement sortant où on retrouve ces différentes sensibilités courants. Je crois que ça sera très difficile, voire impossible d'avoir un seul courant. Et d'autre part, ça va être très important de voir ce qui va se passer par rapport aux élus hongrois. Il faut rappeler aussi aux auditeurs que Salvini ne sera pas au Parlement. Hein. Il est tête de liste, mais il ne va pas siéger à Strasbourg ou à Bruxelles.
Daniel Eder.
Oui, j'aimerais...
En guise de conclusion, assez court, parce qu'on arrive au terme.
Très court, j'aimerais... En guise de conclusion, émettre une hypothèse. Alors, un aspect qui a été peu évoqué, cette question, à partir aussi de l'affaire autrichienne, de l'influence russe. Il ne faut pas se leurrer, je veux dire, on s'achemine aussi à ce niveau-là à une confrontation très importante entre partis populistes d'extrême droite et au sein même de ces partis, entre ceux qui vont jusqu'à la fin suivre Poutine et ceux qui vont suivre Trump. Parce que Trump aussi, et les Américains, tout en ayant eu peut-être un soutien initial de la part de Poutine, s'achemine vers un affrontement avec Trump. Et je me demande si l'affaire autrichienne, le scandale autrichien, la vidéo autrichienne n'est pas l'œuvre d'un courant, d'un clan anti-Poutine au sein de l'extrême droite autrichienne.
Eh ben voilà une hypothèse intéressante qu'il faudra suivre. Puccini, qui est d'ailleurs un passage que l'on entend très souvent dans les meetings de Matteo Salvini.
Non,
si. J'ai vérifié.
Normalement, c'est le cœur de Nabucco. Va pensiero, etc.
Vincero, je vous dis, je vous assure, j'ai même vérifié ce matin, j'ai regardé quelques vidéos, effectivement. Ah ben, il y en a probablement deux.
Comme quoi, même extrême droite, on est mélomane.
Ouais, évidemment, dans Turando, il s'agissait de gagner le cœur d'une jeune princesse chinoise. Là, Salvini, c'est le cœur des Italiens qui veut gagner. Merci beaucoup, en tout cas, à nos invités. Marc Lazare, je rappellerai, Peuplocratie qui vient de paraître chez Gallimard. Merci, Daniel Eder, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes correspondant à Paris du quotidien Courir. Merci infiniment, Marc Semo. À bientôt, à très vite. Hein, voilà, 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et alors aujourd'hui, petit tour du côté des marchés. Que pensent les spéculateurs de l'évolution des marchés pour les mois à venir et sur quelle base font-ils leurs prévisions ?
L'analyse fondamentale, vous connaissez, c'était la méthode utilisée jusqu'à avant-hier pour déterminer la valeur d'une société et donc le cours de ses actions sur les marchés. Était pris en considération par de savants calculs, ses forces et ses faiblesses financières, sa profitabilité, son environnement concurrentiel, la valeur de ses stocks et quantité d'autres facteurs. Mais le trading haute fréquence a ringardisé ces vieilles théories du style « acheter au son du canon, vendre au son du clairon ». Autrement dit, acheter à la baisse, revendez au plus haut des cours. Le facteur primordial pour déterminer s'il convient ou non d'investir dans des valeurs quelles qu'elles soient, c'est devenu « d'autres investisseurs en achètent-ils ?» Quels que soient les motifs objectifs. C'est ce qu'on lit sur le site Quorum Center. Si les investisseurs continuent à juger désirables les actions de telles compagnies, si se les procurer leur fait plaisir, alors il faut en faire de même, sans trop perdre de temps à s'inquiéter de l'état et des perspectives de l'institution émettrice. C'est pourquoi, poursuit l'auteur, la finance implique de plus en plus de psychologie. C'est une évolution qu'on pourra juger inquiétante, car c'est de cette manière que se forment les bulles irrationnelles, et elles finissent toujours par éclater. Prenez le cas du Bitcoin. C'est un actif qui n'a aucune valeur intrinsèque. On ne peut pas faire de l'essence comme pour le pétrole, ni des câbles comme avec le cuivre. Pourtant, le cours de cette mystérieuse crypto-monnaie s'est envolé de manière totalement irrationnelle. Plus de 7000 euros aujourd'hui, alors qu'il était tombé à 66 euros en 2013. Pourquoi ? Parce que ceux qui en achètent pensent que son cours va continuer à grimper. Et le jour où ils en seront lassés, le jour où ça ne les amusera plus d'en acheter, alors ils voudront s'en débarrasser et ils vendront leur bitcoin. Cette crypto-monnaie perdra alors sa valeur. Les investisseurs psychologues qui auront pressenti les premiers cette lassitude se seront débarrassés de leur bitcoin à temps, réalisant de substantiels bénéfices. Le fameux devin des marchés, Nouriel Roubini, surnommé Dr Doom parce qu'il est l'un des très rares économistes à avoir annoncé la crise des subprimes, est, on n'en sera nullement étonné, un adepte de cette psychologie de marché. Les marchés, écrit-il, souffrent de troubles bipolaires. Ils sont, comme disaient les psychiatres autrefois, des maniaco-dépressifs. Dans leur phase d'exaltation, toutes les valeurs se mettent à grimper par des effets de contagion, puis survient la phase dépressive et ils surréagissent en s'effondrant. Dans la phase 1, les investisseurs prennent tous les risques, contribuant à surévaluer la valeur des actifs en les achetant. Dans la phase 2, ils provoquent le mouvement inverse de sous-évaluation.
Mais alors Brice, quelles sont les prévisions de Nouriel Roubini, notre devin des marchés pour cette année? Que lui enseigne cette fameuse psychologie des marchés? Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut vendre?
Si vous aviez des actions Qualcomm, c'est trop tard pour les vendre. À l'annonce d'une décision de la justice californienne reprochant à ce fabricant de composants électroniques utilisé par les smartphones des pratiques monopolistiques, l'action a perdu avant-hier 12%. 10 milliards de capitalisation boursière sont ainsi partis en fumée. Mais pour répondre plus précisément, si c'est possible, à votre question, Roubini commence d'abord par analyser la tendance. Le cours des actions a continué à grimper en 2017. En 2018, les marchés ont commencé à chanceler, connaissant même une réelle dépression à la fin de l'an dernier. Depuis le début de cette année, ils se sont rétablis. Et ce rétablissement exerce d'ailleurs un effet positif sur la croissance américaine qui demeure soutenue comme on sait. Mais la croissance européenne, elle, est faible et, prévient Roubini, l'Europe n'est pas à l'abri d'une crise politique ou économique en Italie, pays entré en récession et plombé par une énorme dette publique. Alors que les mécanismes de prévention mis en place par la dernière crise, comme l'union bancaire, ne sont pas tout à fait finalisés en Europe. Mais l'Europe n'est pas la seule région du monde à donner des inquiétudes au marché. Ce sont surtout, dans l'ordre, le Venezuela, l'Iran, la Turquie, l'Argentine, le Brésil et le Mexique qui inquiètent. Ces économies émergentes sont exposées à de graves risques politiques. Et ça, les marchés n'aiment pas. Mais ce qui inquiète le plus les marchés mondiaux, c'est la guerre commerciale, évidemment, entre les États-Unis et la Chine. Beaucoup de gens estiment que Trump tape sur la table pour obtenir un meilleur accord, mais qu'il n'est pas dans l'intérêt des Américains de s'engager dans une escalade protectionniste. Enfin, beaucoup dépendra, comme les années passées, des politiques monétaires, en particulier de celles de la Fed et de la BCE. Tant qu'elles maintiennent des taux écrasés et qu'elles créent de la monnaie, les investisseurs feront monter les cours. Lorsqu'elles les feront remonter, eh bien l'effet sera inverse.
Merci beaucoup pour ces éclairages, Brice. Maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Allez, dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.